de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres, un dirigeant de Hong Kong se rend à Pékin pour discuter de l'économie. Mike Pompeo sous enquête sur une prétendue campagne en Israël. Une recherche britannique a trouvé des preuves d'une diminution des anticorps contre la COVID-19. Dans le Forum des Nations Unies, le membre du Parlement indonésien du millénaire a expliqué l'importance de l'EBT. Toutes les composantes de la nation doivent jouer un rôle dans la gestion de COVID-19, a déclaré Denis Monardo. Le gouvernement prédit que le processus de vaccination COVID-19 des Hickman est le plus rapide. Et pour relancer l'économie en raison de la pandémie, l'Indonésie et la Corée du Sud renforcent les investissements industriels. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Un dirigeant de Hong Kong se rend à Pékin pour discuter de l'économie. Le chef de la ville de Hong Kong, Carrie Lam, visite Pékin pour discuter des efforts visant à relancer l'économie post-pandémique. Les économies de la place financière asiatique ont été durement touchées par la pandémie de la manifestation antigouvernementale. S'exprimant lors d'une conférence de presse hebdomadaire, Lam a déclaré qu'il partirait le 3 novembre. Avant de se rendre à Pékin, il effectuera un test COVID-19 dans la ville de Shenzhen. Lam a déclaré mardi 27 octobre que sa visite à Pékin, cette fois, était uniquement pour des questions économiques compte tenu de la situation économique très grave à Hong Kong. Il a besoin de plus de soutien de la Chine continentale, d'autre plus que l'orientation du mouvement de Hong Kong doit être plus intégrée avec la Chine continentale. Le dirigeant de Hong Kong, soutenu par Pékin, a rapporté son discours annuel qui devait être prononcé plus tôt ce mois-ci. Il doit visiter la partie continentale de la Chine pour discuter de la manière dont le gouvernemental central pour aider l'économie de l'ancienne colonie britannique. Mike Pompeo sous enquête sur une prétendue campagne en Israël. De hauts démocrates du Congrès ont annoncé que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait fait l'objet d'une enquête pour avoir abusé de son autorité en prononçant des discours pour la convention républicaine RNC à Jérusalem. Mardi 27 octobre, Middle East Eye a rapporté que l'agence fédérale américaine autorisée à enquêter sur les abus de pouvoir des représentants de l'État, le bureau des avocats spéciaux, OSC, a ouvert une enquête sur Pompeo. Selon le président du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Elio Angel, et le chef du comité d'allocation budgétaire, Nita Loi, dans leur déclaration. Il aurait violé la loi Hatch qui interdit aux fonctionnaires fédéraux d'utiliser les bureaux et les ressources du gouvernement pour faire campagne. Une recherche britannique a trouvé des preuves d'une diminution des anticorps contre la COVID-19. Les anticorps contre le nouveau coronavirus ont diminué rapidement parmi la population britannique au cours de l'été, selon une étude découverte mardi 27 octobre. Les résultats suggèrent que la protection après l'infection ne peut pas durer longtemps et provoque la réduite d'une immunité dans la communauté et soulève la perspective d'une immunité réduite dans la communauté. Les scientifiques de l'Université de recherche Imperial College de Londres ont tracé les niveaux d'anticorps dans la population britannique après la première vague d'infection à COVID-19 de mars à avril. La recherche a révélé que la prévalence des anticorps a diminué de 6% vers la fin juin à seulement 4,4% en septembre. Le déclin laisse entrevoir la perspective d'une réduction de l'immunité de la population avant une deuxième vague d'infection qui a forcé des confinements et des restrictions locaux ces dernières semaines. Dans le Forum des Nations Unies, le membre du Parlement indonésien du millénaire a expliqué l'importance de l'EBT. Dans le Forum international des Nations Unies, la membre de la Commission 7 du Parlement indonésien, Diahroro Esti Widya Putri, a expliqué l'importance des énergies nouvelles et renouvelables, EBT, pour l'avenir. EBT n'est pas seulement une énergie de réserve, mais aussi la principale énergie de l'avenir. Cela a été dit par le législateur du millénaire dans un forum sur le thème Shaping Our Future Together, comme une série du 75e anniversaire des Nations Unies organisée virtuellement par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique, UNCESAP. Dans sa déclaration reçue mardi par l'agence de presse Antara Jakarta, Diahroro Esti a également expliqué l'importance de la mise en œuvre des objets de développement durable ODD dans le secteur énergétique indonésien et le rôle de l'Indonésie dans la lutte contre la crise climatique. Diahroro Esti a déclaré que l'Indonésie avait une portion cible d'EBT dans le mix énergétique national de 23% en 2025 et de 31% en 2050. Selon elle, plusieurs choses peuvent être faites pour réduire les émissions de carbone dans le secteur de l'énergie, dont l'efficacité énergétique. Toutes les composantes de la nation doivent jouer un rôle dans la gestion de COVID-19, a déclaré Denis Monardo. Le président du groupe de travail pour la gestion de COVID-19, Denis Monardo, a déclaré que toutes les composantes de la nation doivent participer à la gestion de COVID-19 en tant que forme de défense de l'État. C'est ce qu'a déclaré Denis Monardo lors d'une conférence du groupe de travail pour la gestion de COVID-19 qui a été diffusée sur le compte YouTube de l'Agence nationale de gestion des catastrophes BNPB de l'Indonésie depuis le bâtiment de BNPB à Jakarta mardi. dont a déclaré que l'un des combattants dans la gestion de COVID-19 est journaliste. Si dans le passé, les combattants pour l'indépendance se sont battus en prenant les armes, maintenant, les médecins ont du mal à traiter les patients COVID-19 et les journalistes se battent pour amener le public à se conformer aux protocoles de santé. Il a déclaré que la gestion de COVID-19 ne peut pas être séparée du support médiatique. Selon lui, la communication, la socialisation et la participation des médias dans la gestion de COVID-19 sont très stratégiques. De plus, un certain nombre d'enquêtes ont également indiqué que 63% de la socialisation était entre les mains des médias. Le gouvernement prédit que le processus de vaccination COVID-19 d'Eichmann est le plus rapide. Le ministre de la Recherche et de la Technologie et le chef de l'Agence nationale de recherche et d'innovation Bambam Brojonegoro prédit que le développement du vaccin COVID-19 rouge-blanc de l'Institut Eichmann est le processus le plus rapide qui se prépare actuellement aux essais sur les animaux. Bambang, lors de la conférence de presse en ligne du Comité pour la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale à Jakarta, mardi, espère que des résultats satisfaisants seront obtenus en fin de cette année. Selon lui, s'il a été testé sur des animaux ou des cellules de mammifères à partir du mois d'octobre, les semences du vaccin seront remises à Biopharma qui produira à petite échelle pour les premiers à troisième essais cliniques. Après les troisième tests réussis, le candidat vaccin rouge-blanc sera soumis à l'Agence de contrôle des aliments et drogues, BPOM, qui décide si le vaccin peut passer ou pas pour être utilisé en masse. Pour relancer l'économie en raison de la pandémie, l'Indonésie et la Corée du Sud renforcent les investissements industriels. Le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita a déclaré que dans un effort pour récupérer l'économie nationale qui était affectée par la pandémie COVID-19, la synergie entre l'Indonésie et la Corée du Sud était plus renforcée. Le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita, dans son discours virtuellement lors de l'événement SEGI ASEAN Forum 2020, mardi, a déclaré que pendant des années, l'Indonésie et la Corée avaient continuellement renforcé leurs relations économiques. À travers SEGI ASEAN Forum 2020, Agus est convaincu que les deux pays renforceront les coopérations, en particulier dans les secteurs des affaires et de l'industrie. En 2019, le commerce entre l'Indonésie et la Corée du Sud a atteint 15,6 milliards de dollars américains. La plupart des produits indonésiens exportés vers la Corée du Sud sont le fer et l'acier, le bois et les produits du bois, les machines et les matériels électriques, ainsi que les produits finis et les accessoires vestimentaires. Mon cher auditeur, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, voici le commentaire d'aujourd'hui, le 28 octobre 2020, dont le titre est « La concurrence d'armes lourdes entre les États-Unis et la Russie ». La fin de l'embargo des États-Unis sur les armes contre l'Iran le 18 octobre 2020 devrait entraîner une nouvelle ère de concurrence d'armes lourdes entre les États-Unis et la Russie. La fin de l'embargo des Nations Unies sur les armes contre l'Iran offre à l'Iran la possibilité d'acheter et de commercialiser des armes de et vers l'étranger. Les Nations Unies ont précédemment rejeté une proposition américaine de prolonger l'embargo sur l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré l'indépendance de l'Iran dans le secteur de la défense peu après la fin de l'embargo sur les armes. Une possibilité qui se produira est que Téhéran se rapprochera de Moscou pour coopérer dans le domaine de la défense aérienne avancée. Ceci est conforme à la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères par l'intermédiaire de Levan Jagarian, l'ambassadeur de Russie en Iran. Il a déclaré à un journal iranien que très probablement son pays vendrait le système de défense aérienne S-400 à l'Iran. Les remarques de l'ambassadeur de Russie semblent être une réponse à l'avertissement de Washington de ne pas prendre de mesures susceptibles de provoquer de nouvelles tensions. L'ambassadeur de Russie à Téhéran a fermement déclaré que la Russie n'avait pas peur de la menace des États-Unis. Un certain nombre de médias de masse en Russie ont écrit des articles sur la sophistication du système de défense aérienne S-400 du pays. Il est rapporté que le développement a utilisé un processeur numérique de nouvelle génération capable de détecter les fréquences radar ainsi qu'un système informatisé sophistiqué. On pense même que la dernière variante du S-400 peut détruire les chasseurs furtifs de 5e génération de fabrication américaine et même les bombardiers B-2. La question de la vente prévue de ces systèmes avancés de défense aérienne à l'Iran suggère que la Russie voudra probablement tester le S-400 par les mains de Téhéran. Dans cette perspective, la fin de l'embargo de l'Organisation des Nations Unies sur les armes contre l'Iran pourrait déclencher une escalade de la concurrence pour les armes lourdes modernes, notamment les armes pour les frappes aériennes et la défense entre les pays, dans ce cas les États-Unis et la Russie. Cependant, la question selon laquelle l'Iran réalisera l'achat d'armes de défense aérienne S-400 a encore besoin de prévu. Il semble que le gouvernement iranien doive encore prendre diverses mesures en considérant ce qu'on appelle la doctrine de défense iranienne. Sur la base de cette doctrine, les décisions en matière de défense sont très dépendantes du peuple. Cela comprend la prévention des mesures considérées comme extravagantes lors de l'achat d'armes à l'étranger. C'était le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire aujourd'hui avec l'événement, le deuxième congrès de la jeunesse a eu lieu le 28 octobre 1928. La décision du deuxième congrès de la jeunesse tenu les 27 et 28 octobre 1928 à Batavia insiste sur l'idéal qu'il y aurait une patrie indonésienne, une nation indonésienne et une langue indonésienne. Cette décision a ensuite été connue sous le nom de serment de la jeunesse, bien que ce thème n'apparaisse pas dans la décision du congrès, mais il a été donné après cette décision. Le serment de la jeunesse est une étape majeure de l'histoire du mouvement d'indépendance indonésien. Ce serment était considéré comme une cristallisation de l'enthousiasme pour affirmer les idées de la création de l'État indonésien. Depuis le 29 octobre 1959, le gouvernement indonésien a désigné le 28 octobre comme la journée du serment de la jeunesse par le décret présidentiel numéro 316 de 1959 du 16 décembre 1959 pour commémorer cet événement. L'autre information est sur le collège de droit de RHS a été ouvert le 28 octobre 1924. The Resso School Batavia, généralement abrégé RH de Batavia, RH de Welteverden ou RHS a ouvert ses portes depuis le 28 octobre 1924 à Batavia. RHS est le collège de droit. Au début du XXe siècle, le problème de l'établissement d'un enseignement supérieur dans les Indes orientales néerlandaises faisait l'objet de débats houleux au sein de l'élite néerlandaise et des dirigeants de Bumiputra. Cela montre qu'il existe des doutes de la part du gouvernement colonial établir un collège dans les Indes orientales néerlandaises. Le 8 mars 1910, le gouvernement colonial a approuvé l'établissement de l'Indische Universiteit Vereniging, IUV, l'Association des universités des Indes néerlandaises qui, dans son statut, mentionnait que IUV visait à faire progresser, à créer et à gérer les collégiats des Indes orientales néerlandaises. Après cela, le 3 juillet 1920, la Technische Hogeschool de Bandung ou l'École d'ingénieurs de Bandung a été ouverte. Le gouvernement des Indes orientales néerlandaises a ouvert RHS. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la naissance de Bill Gates le 28 octobre 1955. William Henry Bill Gates III est un homme d'affaires, un investisseur, un philanthrope, un écrivain américain et un ancien président directeur général qui est actuellement président de Microsoft, la société de logiciels qu'il a fondée avec Paul Allen. Il est né à Seattle, Washington, le 28 octobre 1955 de William Gates Sr. avec sa femme, Mary Maxwell Gates. Il a été classé en permanence parmi les personnes les plus riches du monde et classé première de 1995 à 2009. Au cours des dernières étapes de sa carrière, Gates a fait plusieurs efforts philanthropiques en faisant de dons à diverses organisations de bienfaisance et programme de recherche scientifique par l'intermédiaire de la Fondation Bill and Melinda Gates, créée en 2000. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Mengapa aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku diam membisu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Apakah yang harus aku lakukan untuk menarik perhatianmu lagi? Walaupun harus mengubah tetap di sini, lihat aku, duhai sayangku. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi?
Apakah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, ma banque export-import des États-Unis explore le financement des investissements en Indonésie. La Banque Export-Import ou Exim des États-Unis explore le potentiel de financement de la coopération commerciale et d'investissement indonésie qui représente jusqu'à 750 millions de dollars américains ou l'équivalent de 11,02 billions de rupiah. Le financement de cette coopération sera plus tard être contenu dans un mémorandum d'entente qui sera signé dans un proche avenir. Dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche, l'engagement d'améliorer les relations bilatérales et la coopération économique entre les États-Unis et l'Indonésie a été révélé lors d'une réunion entre la présidente et chef de l'Exim, Kimberly Akit, et le ministre de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, à Jakarta. Akit, dans sa déclaration, a déclaré que ce protocole d'accord confirmerait l'engagement d'Exim dans divers projets potentiels en Indonésie, de l'énergie à la technologie de communication sans fil, 4G plus ou 5G au service de santé. Akit a ajouté, Exim souhaite collaborer pour encourager les opportunités d'investissement et les opportunités de développement des affaires en Indonésie. On considère que cela présente des avantages potentiels pour les travailleurs et les hommes d'affaires tant des États-Unis que l'Indonésie. Dans une déclaration précédente, Kimberly Reed a déclaré que l'Indonésie est la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, étant partenaire économique important des États-Unis dans la région Indo-Pacifique. Pendant ce temps, le ministre de la Coordination, Luhut Panjaitan, a accueilli favorablement le protocole d'accord proposé et à espérer qu'il y aurait une augmentation des investissements américains dans un certain nombre de projets d'infrastructures, d'énergie, de transport et de télécommunications. Cet accord a été convenu dans le cadre d'une visite de la délégation des États-Unis en Indonésie, au Vietnam et au Myanmar, dirigée par le président directeur général de la Société de financement de développement international, IDFC, Adam Bohler, ainsi que de hauts fonctionnaires américains, entre autres, le chef de l'Exim et des fonctionnaires du ministère des Finances et du Commerce, d'Énergie et des Affaires étrangères des États-Unis. Exim est une agence fédérale indépendante qui promeut et soutient les emplois aux États-Unis en fournissant le crédit à l'exportation compétitive nécessaire pour soutenir la vente des biens et des services américains à des acheteurs internationaux. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cinta ku di dada, sesungguhnya cukup lama.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons le parc de tourisme naturel du Mont Tunap. Restez à l'écoute. Le dilemme auquel sont souvent confrontés par les touristes est de choisir la destination touristique idéale pour des vacances. Le choix est entre les montagnes ou les plages. Mais y a-t-il des destinations touristiques qui couvrent les deux? La réponse, il y en a. Sur l'île de Lombok, il y a une destination appelée le parc de tourisme naturel du Mont Tunap. Cet endroit est un package complet pour les amateurs de montagne et de plage. L'emplacement est dans le village de Mertak, le district de Pujut, dans la région centrale de Lombok, à l'ouest de Nusa Tenggara. Le parc de tourisme naturel du Mont Tunap, ou communément appelé TWA Gunung Tunap, est un promontoire d'un 1200 hectares qui s'avance directement dans l'océan Indien, entouré de plaines vallonnées et les îles de falaise. Le cap est flanqué de la baie Bumbang à l'ouest-nord et de la baie Awang à l'est. À première vue, TWA Gunung Tunap est similaire à 12 Apostles de Victoria en Australie. Cependant, le groupe d'îles de falaise dans cette région ne compte pas 12. Même ainsi, cette destination a toujours une beauté extraordinaire. En entrant dans la zone touristique de Gunung Tunap, vous traverserez un certain nombre de zones forestières protégées qui sont habitées par des espèces en voie de disparition comme mégapodes, des chèvres de Timor et de nombreux types de papillons dans le parc captif. Après avoir traversé la zone forestière, vous trouverez une plage cachée. Son nom est la plage Bilayasak, qui est une plage vierge de sable blanc face à l'océan Indien. L'eau de mer est d'un bleu foncé qui est très belle lorsque le ciel est clair avec de minces nuages au-dessous. Cette plage est également entourée de falaises de calcaire circulaire. De loin, elle semble dorée. Au sommet de la falaise, il y a des collines verdoyantes que vous pouvez escalader. Et de haut, vous pouvez voir le panorama naturel de Gunung Tunap qui a des îles de falaise alignées dans l'océan. De temps en temps, les grosses vagues balayaient les falaises, donnant lieu au son distinctif de l'océan. Dans la région de TWA Gunung Tunap, il y a aussi un phare de 20 mètres de haut. De haut du phare, vous pouvez voir toute la région de TWA Gunung Tunap qui s'étend sans aucune obstruction. La mer bleue, les falaises, les plages, les collines et le ciel, tous ces sites émerveillent tout le monde par sa beauté. De plus, ce parc touristique est un quartier calme et peu de touristes le savent, de sorte que tous ceux qui viennent se sentiront gâtés comme sur une île privée. L'emplacement de Gunung Tunap est à environ 80 km de la ville de Mataram et prend environ 2,5 heures en utilisant des véhicules à moteur. L'état de la route n'est pas extrême et a utilisé de l'asphalte pour accéder à ces îles touristiques. Cependant, il n'y a pas encore de transport public. Vous pouvez louer une voiture ou utiliser de préférence un service de voyage au départ de la ville de Mataram avec une fourchette de près de 300 000 rupiah. Gunung tunak e ubrat tulezuk de setek a 6 heures lokal. Le prix du billet est de 5000 rupiah pour les touristes locaux et de 10000 rupiah pour les touristes étrangers. Les installations de ces sites touristiques sont très minimes car il est encore en construction. Il n'y a qu'un parking, une forêt protégée et un élevage de papillons. Il n'y a pas de commerçants, de restaurants ou de centres de souvenirs autour de l'emplacement. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui avec le titre Le Parc de Tourisme Naturel du Mont Tunac. Merci de votre attention. À demain. Banyak cinta yang datang.
Charge Litard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey, et le sujet d'aujourd'hui est Makanan Khas. Makanan Khas. En français, repas typique. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Makanan Khas. Makanan Khas. En français, repas typique. La situation est à la Buan Bajo, Kevin s'est arrêté à un stand de repas qui vend du repas de la Buan Bajo.
Permisi, saya mau pesan nasi kolo, jagung bose, dan ikan kuah asam.
Baik mas, apa Anda mau coba sambal teri?
Bagaimana rasanya?
Rasanya pedas dan asin, cocok dimakan dengan ikan kuah asam.
Kalau begitu, saya pesan sambal teri untuk satu porsi.
Ya, mohon tunggu sebentar.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, Makanan Khas. Makanan Khas, en français, repas typique. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Pesan, pesan. En français, commander. Coba, coba. Goûter. Sambal, sambal. En français, sauce épicée. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Comment ça se goûte? Porsi, porsi, portion. Pedas, pedas, épicé. Asin, asin, salé. Asam, asam, aigre. Manis, manis, sucré. Pahit. Pahit, amer. Chers auditeurs, si vous souhaitez commander un plat, vous pouvez utiliser la phrase « Saya mau pesan ».« Saya mau pesan ». En français, « Je veux commander ». Si vous souhaitez demander le goût d'un aliment, vous pouvez utiliser la phrase de question « Bagaimana rasanya ?»« Bagaimana rasanya ?» En français, quel goût a-t-il? Ou, seperti apa rasanya? Seperti apa rasanya? En français, comment ça se goûte? Voici des exemples d'expressions pour commander et demander du goût et la réponse donnée. Kevin, permisi bu, saya pesan satu porsi ikan kuah asam. Permisi bu, saya pesan satu porsi ikan kuah asam. En français, excusez-moi, madame, je commande une portion de poisson au tamarin. Vendeur. Baik, apa anda mau coba sayur pare? Baik, apa anda mau coba sayur pare? En français, d'accord. Voulez-vous goûter du melon amer? Kevin. Seperti apa rasanya? Seperti apa rasanya? En français, comment ça se goûte? Vendeur, rasanya sedikit pahit dan pedas. Rasanya sedikit pahit dan pedas. En français, il a un goût un peu amer et épicé. Kevin, kalau begitu saya pesan satu porsi sayur pare. Kalau begitu saya pesan satu porsi sayur pare. En français, alors je vais commander une portion de melon amer. Vandaag. Ya, mohon tunggu sebentar. Ya, mohon tunggu sebentar. En français, oui, veuillez patienter un moment. Chers amis, en indonésien, pour exprimer le goût des aliments, nous utilisons les mots manis, manis, sucré, pahit, pahit, amer, asin, asin, salé, asam, asam, aigre, et pedas, pedas, épicé. En dehors de cela, les Indonésiens utilisent également les expressions gurih, gurih, salé, renyah, renyah, en français, croustillant, hambar, hambar, en français, inspid, et tawar, tawar, inspid, lors de la dégustation des aliments. Généralement, les plats indonésiens ont des caractéristiques gustatives différentes, car ils utilisent beaucoup d'épices, ont un goût épicé et ont un lait de coco. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Permisi. Saya mau pesan nasi kolo, jagung bose, dan ikan kuah asam.
Baik mas, apa Anda mau coba sambal teri?
Bagaimana rasanya?
Rasanya pedas dan asin, cocok dimakan dengan ikan kuah asam.
Kalau begitu, saya pesan sambal teri untuk satu porsi.
Ya, mohon tunggu sebentar.
Mon cher auditeur, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. De l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et maintenant je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson de Java occidental intitulée Kalangkang. Chers auditeurs, Kalangkang de Sundanese, qui signifie ombre. Les paroles de la chanson Kalangkang racontent la romance d'un couple. Les deux s'aiment et se partagent un sentiment de bonheur. La beauté de la relation était initialement imaginaire, mais est devenue plus tard réalité. Les paroles décrivent également « Si vous aimez, vous devez rechercher l'amour pour y parvenir. » La chanson Kalangkang a été créée par Nano S. Cette chanson a été présentée dans l'album Kalangkang, qui a été publié en 1988 et popularisé par Nining Meida. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Java occidental intitulé Kalangkang, chanté par Nining Meida. Bonne écoute. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.